Bienvenue sur Ocean Happiness Therapy, votre dose de bien-être pour prendre soin de vous au quotidien. Alors on est de retour avec Guillaume Baruc, qui est du coup médecin généraliste expert dans les bienfaits de l'océan, que l'on avait retrouvé sur le dernier podcast. Et aujourd'hui, on va parler des pouvoirs du sel, des sels que l'on retrouve dans l'eau de mer, et aussi de parler de l'iode. Deux sujets très, très liés. Justement, Guillaume va nous expliquer un peu les bienfaits sur le corps, sur l'organisme, et comment en profiter quand on est au bord de la mer ou quand on est loin de la mer. Alors, bonjour Guillaume.
Bonjour Laure.
Est-ce que tu peux nous parler du sel C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup critiqué. Le sel, on a tendance à le diaboliser. Donc là, c'est intéressant de découvrir dans ton livre Détoxification que justement le sel est important pour le corps et a de nombreux bienfaits. Peux-tu nous en parler?
Alors oui, en effet, non seulement le sel est important, mais il est même vital. On ne peut pas vivre sans sel, on ne peut pas survivre sans sel minéraux. Donc, pour vivre, on sait qu'il faut de l'eau, mais on a tendance à oublier qu'on a besoin de sel au pluriel. Et déjà, peut-être qu'il faut faire la différence entre le sel, ce qu'on appelle communément le sel dans le langage courant et qui est du chlorure de sodium, et les sels minéraux qui sont effectivement le sodium, le chlorure de sodium, et tous les autres sels minéraux, que ce soit le magnésium, le calcium, le potassium, et les oligo-éléments. Donc ça représente plusieurs dizaines d'éléments dont notre corps a besoin. Et ce qui est très important, c'est que notre corps ne peut pas les synthétiser à partir d'autres produits. C'est-à-dire que si vous n'apportez pas des sels minéraux en quantité suffisante, votre corps va dysfonctionner, vous allez faire des symptômes, vous allez tomber malade ou vous allez faire un problème potentiellement mortel en cas de déficit grave en sels minéraux, que ce soit un sel ou plusieurs sels. Donc, c'est très important d'avoir conscience qu'on a besoin de sels minéraux et d'avoir un équilibre en sels minéraux, et donc on a besoin d'apports suffisants en sels minéraux. Et aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on remarque, c'est que sous l'effet des messages anxiogènes liés au sel, les gens se restreignent volontairement en sel en se disant « Oh là là, le sel, c'est mauvais pour la santé ». Donc, le résultat, c'est qu'ils ne mettent pas de sel dans leurs aliments, ils consomment des eaux très peu salées. Et globalement, comme on sait que l'alimentation générale, et notamment les fruits et les légumes, sont moins riches en sels minéraux qu'à une autre époque, parce que les sols sont moins riches, et bien on se retrouve carencé. Et alors, quand on étudie la population, justement, on se rend compte que la population est carencée, notamment en magnésium, en différents sels minéraux très importants pour l'organisme.
Alors justement, j'ai une question à ce propos. Vu que c'est quelque chose dont on a besoin pour notre organisme, pour le bon fonctionnement de notre organisme, comment normalement on s'approvisionne justement en sels minéraux et d'où viennent ces sels minéraux en fait de la nature? D'où proviennent-ils et comment sont-ils synthétisés?
Alors, tu peux les trouver déjà dans ton alimentation générale, à condition que cette alimentation soit de qualité suffisante. Donc, il faut que ce soit une alimentation saine, avec des produits bio, le plus naturel possible et le moins transformé possible. Parce que ce qui est mauvais pour la santé, ce sont les produits ultra transformés dans lesquels on va retrouver un excès de sodium. Hein? Voilà, là, il n'y aura pas la multitude de sels minéraux dont on a besoin, mais il va y avoir que du sodium. Et l'excès de sodium, effectivement, dans ces produits peut poser problème. Donc, il faut manger tout type de produits, donc en fonction de son alimentation. On peut en retrouver dans le poisson, dans la viande, dans les œufs, dans les légumes, dans les fruits. En fonction de si on est végétarien ou non, il faut veiller à de bons apports en sels minéraux. Mais généralement, cela ne suffit pas. Et si on veut diminuer justement ses prises alimentaires, ne pas être contraint de trop manger pour remplir ses besoins incompressibles en sels minéraux. Parce que si ces besoins ne sont pas remplis, on va être tenté de manger. Donc, pour arriver plus vite à satiété, c'est-à-dire ne plus avoir faim, il est important de saler avec du bon sel, on en parlera après, ces aliments, quels qu'ils soient. Après, le sel, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il provient essentiellement des profondeurs océaniques et des profondeurs de la croûte terrestre, où des grandes quantités se déversent dans les océans pour leur donner leur salinité. Et donc ce sel, on va le retrouver dans l'eau de mer, qu'on assèche dans les marais salants qu'on peut retrouver en France, notamment sur l'île de Ré, l'île de Léron, à Noirmoutier, en Camargue, à Guérande, bien sûr. Et donc, on peut le retrouver donc, grâce à ces marais salants, et on peut le retrouver aussi sur le site d'anciennes mers qui ont été asséchées ou qui ont disparu. C'est le cas, par exemple, à Salis de Béarn. Mais en tous les cas, le sel vital pour notre santé provient des océans.
D'accord. Donc c'est le sel marin que nous devons choisir pour venir justement se recharger en sels minéraux.
Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que le vrai sel, c'est un produit totalement bio, sans additifs, sans anti-agglomérants, à la différence du sel de table que vous trouvez la plupart du temps sur les restaurants, ou que vous pouvez acheter aussi dans le commerce, mais qui est un sel raffiné, très blanc, très fin. Mais qui est pas un sel naturel. On y retrouve quasiment exclusivement que du chlorure de sodium, donc, et des anti-agglomérants. Alors, le seul motif intéressant pour consommer ce type de sel, c'est qu'il a été décidé à une époque de supplémenter ces sels-là en iode. C'est-à-dire qu'en se rendant compte que les populations étaient globalement carencées en iode, on s'est dit, finalement, comme les populations consomment du sel, on va faire du sel iodé.
Bon.
Et donc effectivement, le sel iodé, pour quelqu'un qui a une carence en iode ou qui a des problèmes de thyroïde par exemple, ça peut être intéressant. Même si de l'iode, on va en retrouver aussi dans le sel naturel, dans le sel marin naturel. Mais contrairement à une idée reçue, il y a de l'iode dans le sel marin naturel, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que si vous voulez faire le plein d'iode, il ne suffit pas de saler votre alimentation avec du sel marin. Ça va apporter une quantité non négligeable, mais ça n'est pas suffisant. Et pour faire le plein d'iode, il va falloir plutôt se reposer là aussi sur des produits donc, de qualité qui ont été alors, soit cultivés, soit élevés, si on parle d'animaux près de la mer, parce que forcément, dans ces zones-là, les sols sont plus riches en iode, ou alors carrément consommer des produits de la mer, donc du poisson bien sûr, des fruits de mer, et les bombes à iode et en différents d'ailleurs produits intéressants pour la santé, comme des antioxydants par exemple, ce sont les algues. Donc les algues, c'est sûr que même à utiliser en condiment sur son alimentation, les algues, très vite, vous allez faire le plein d'iode avec ça.
Alors j'ai plusieurs questions justement par rapport au point dont tu as parlé. Pour justement, le premier, bien choisir son sel, quelles sont les erreurs à ne pas commettre pour choisir un sel qui est justement chargé en sels minéraux et bon pour la santé?
Alors déjà, moi je pense qu'il faut apprendre à apprécier et à goûter différents sels. Moi je suis dans cette démarche en ce moment, il y a un nombre infini de sels dans le monde. Chacun a sa texture, a sa couleur, a son goût et a sa composition caractéristique. Donc en général, on y retrouve quand même en majorité du chlorure de sodium, mais on va y retrouver dans des proportions différentes, en général du magnésium, du potassium, du calcium, et ensuite quelques dizaines d'autres sels minéraux et oligo-éléments. Donc la plupart des sels font ce travail d'indiquer aux consommateurs ce qu'on va retrouver dans le sel, mais pas tous.
C'est assez
curieux d'ailleurs, il y a certains sels dans le commerce qui ne détaillent pas la composition. Mais moi ce que je conseille en tout cas, c'est de varier les sels, de n'utiliser que du vrai sel, donc naturel, sans additifs. Donc de goûter déjà les différents sels français qu'on connaît, donc on les a énumérés, le sel de Guérande, le sel de l'île de Ré, le sel de Camargue, le sel de Salis, et après d'alterner avec des sels connus au niveau international. Un des plus connus, c'est le sel rose de l'Himalaya, mais il y en a, il y en a, y en a plein d'autres. Hein. Il y a le sel hawaïen, par exemple.
Il faut que ce soit écrit dessus, sel marin, c'est ça ?
Voilà, sea salt. Enfin, il faut que ce soit organique, sea salt, ou sel marin naturel. En général, en France, c'est label rouge, récolté à la main. Vraiment, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas eu de transformation entre la récolte du sel, qui se fait dans les marais salants. D'ailleurs, j'invite tout le monde à aller découvrir ce que c'est qu'un marais salant. Moi, j'ai découvert ça dans la ville de Guérande, et c'est vraiment intéressant de voir ce travail saisonnier, de patience, et de voir que voilà, ça reste un des métiers manuels hyper nobles, et qui permet de consommer, encore une fois, cet ingrédient indispensable à notre santé. Donc moi, j'aimerais qu'on arrive à sortir de ce discours morbide autour du sel, et qu'on arrive à dire au contraire, salez votre alimentation, parce que le sel, c'est la vie, et sachez que vous avez un organisme, si vous êtes en bonne santé, qui est capable de filtrer le sel. Donc s'il y en a trop, vous allez l'éliminer, notamment en urinant le surplus, et s'il n'y en a pas assez, vous avez des hormones aussi pour retenir le sel, parce que voilà, l'organisme s'est adapté au fil de l'évolution à des périodes de disette où il n'avait pas forcément les apports en sel nécessaires. Mais à une époque, si vous voulez, le sel c'était tellement important, et on a les civilisations en avaient tellement conscience qu'il y a eu même des guerres autour du sel. L'accès au sel, comme je disais au départ, c'est aussi important que l'accès à l'eau. Et après, c'est intéressant de voir qu'il y a différents mots qui dérivent du sel. Salaire, par exemple, ça dérive du mot sel, sale. Ouais. Donc,
et quelle est la juste dose ? Comment savoir, par exemple, pour une personne comme moi, tous les jours, est-ce que j'ai besoin de saler, c'est quoi ? C'est 2-3 pincées par repas ? C'est une pincée par repas ? Comment je peux savoir à peu près la juste dose ?
Alors, en milligrammes, on considère qu'il faut entre 3000 et 6000 milligrammes, donc entre 3 et 6 grammes de sodium par jour. En moyenne, c'est ce qu'il faut pour être en bonne santé. Trop, ça peut poser problème, mais pas forcément, parce que comme je vous disais, en général, on élimine le surplus. Mais par contre, pas assez, là, ça peut être catastrophique. Parce qu'effectivement, là, on se retrouve hypoperfusé. On peut se retrouver avec des problèmes même... Alors, ça peut paraître paradoxal, mais ceux qui consomment le moins de sel font autant d'hypertension que ceux qui en consomment trop.
D'accord.
Oui, parce que dans le sel, et dans les sels minéraux, il y a des ingrédients qui permettent de relaxer les artères et donc de diminuer la tension artérielle. Donc moi, par rapport à ça, je pense qu'il faut pas peser le sel, parce qu'effectivement ça reste quand même des petites quantités. Mais si on peut se mettre, moi en général, je prends du sel marin, donc soit de la fleur de sel. La fleur de sel en général, c'est mieux que le gros sel. Le gros sel, c'est quand même un peu.
Quelle est la différence justement entre la fleur de sel et le gros sel ?
C'est le format de grains. Qui font que les cristaux en fait sont plus fins sur de la fleur de sel, et c'est pas prélevé exactement de la même façon, je crois, ce qui fait que la fleur de sel c'est ça peut même être un peu plus riche. Donc la fleur de sel, moi c'est ce que je conseille
le
plus.
C'est l'idéal.
C'est l'idéal. Et donc oui, moi en général par repas 2 bonnes pincées, voilà. Mais là encore, sans se limiter, on a un thermostat pour le sel dans notre cerveau. Et donc, en général, quand on a suffisamment salé, on s'arrête de saler. Mais par contre, on ressent tous une espèce de fringale au sel contre laquelle il ne faut pas aller. C'est-à-dire que ça peut arriver, le soir, vous rentrez, vous êtes épuisé, et vous voyez le paquet de chips ou le morceau de saucisson dans le frigo, et vous avez une envie irrépressible d'en manger. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin de sel. Et il ne faut pas aller contre ça. Parce que la première cause de fatigue ou d'asthénie, après le manque de sommeil, c'est le manque de sel. Et en général, moi, la première chose que je fais quand je suis exténué après une journée, soit de travail, soit de stress, soit une journée intensive de sport, ça, il faut en parler. Quand on fait beaucoup de sport, on transpire beaucoup. Et par la transpiration, on perd beaucoup de sels minéraux. Donc, dans toutes ces circonstances, il faut se supplémenter en sel. Et en parlant de sport, on a Rafael Nadal qui vient de gagner pour la énième fois Roland-Garros. Il faut savoir que lui-même, depuis un épisode où il faisait des crampes qui l'empêchaient de finir ses matchs, il a compris qu'il manquait de sels minéraux. Et donc maintenant, on le voit régulièrement pendant ses matchs, surtout les matchs les plus longs, on le voit prendre des petits sachets d'eau de mer. Donc c'est des sachets de Totum Sport, ça s'appelle. En fait, c'est la version sportive du Quinton hypertonique dont je vous ai déjà parlé. Mais le Quinton hypertonique, donc, pour rappel, ce sont des dosettes d'eau de mer naturelle purifiée de 10 millilitres. Et donc, il y a aussi la version sportive en sachet qui est le Totum. Et donc, on a besoin, dans ces périodes de fatigue, de refaire le plein de sels minéraux. Ça, c'est très important. Et comprendre que les sels minéraux sont la clé du fonctionnement de notre organisme parce qu'ils font fonctionner les vitamines, les enzymes, les cellules, les organes. Rien ne marche dans l'organisme. Rien ne peut fonctionner. Il n'y a rien dans notre organisme qui peut fonctionner sans les sels minéraux. Ce sont les clés pour tous nos systèmes corporels. Et le premier dont on parle aussi beaucoup en ce moment, c'est le système immunitaire. Vous ne pouvez pas avoir une bonne immunité si vous n'avez pas d'apport suffisant en sels minéraux. Et là aussi, ça a été prouvé que quand on apporte des quantités de sels non négligeables, l'expérience avait été faite sur 6 ampoules de 10 ml d'eau de mer, donc de l'eau de mer pure, salée comme de l'eau de mer. Donc il a été prouvé que l'apport donc, de 60 ml d'eau de mer par jour chez des étudiants, notamment, renforçait le système immunitaire par différents biais, mais notamment par le fait que les cellules immunitaires sont stimulées par l'eau de mer et les sels minéraux qu'elle contient, mais pas uniquement, parce que dans l'eau de mer, il y a aussi d'autres micro-matières qui peuvent contribuer à l'immunité, mais les sels minéraux ont un grand rôle, et également parce que, finalement, un liquide salé, et ça on sait que pour conserver les aliments, souvent, il faut les saler. Et le jambon de Bayonne, ou la plupart des bonnes charcuteries, je dis bien les bonnes charcuteries, sont conservés avec du vrai sel, du sel marin. Et le problème, justement, c'est quand on supprime ce sel naturel, on est obligé de le remplacer, parce qu'il faut forcément quelque chose pour conserver, pour lutter contre les bactéries. Dans ces cas-là, on remplace ça par des additifs qui peuvent être potentiellement toxiques, et en l'occurrence, pour la charcuterie, ça peut être des nitrites, dont on sait aujourd'hui qu'ils peuvent être cancérigènes. Donc, c'est très important aussi de regarder dans vos produits quels sont les conservateurs. Si c'est du sel marin, c'est très bien.
Si je résume, en fait, ce qui est important dans le sel, c'est que c'est vraiment quelque chose de vital, mais si c'est du vrai bon sel marin, en fait, qui nous apporte. Et c'est là aussi où je pense que c'est un point qui est intéressant, on n'a pas forcément cette notion en tête. Qu'est-ce que c'est le sel, en fait? Parce qu'on parle de sel, mais justement, là, on parlait de sel minéraux, on parle d'iode, on parle de sodium. Comment on peut essayer de définir le sel de façon assez simple pour essayer de justement d'aider les gens à comprendre de
quoi il s'agit. Alors, encore une fois, malheureusement, par abus de langage, il y aura toujours cet amalgame qui sera fait entre le sel et les sels minéraux. Mais nous, il faut qu'on essaie de comprendre que le sel avec un grand S est en fait un ensemble de substances vitales, donc d'éléments minéraux, qui vont se retrouver soit dissous dans de l'eau, donc ça peut être de l'eau de mer ou des eaux minérales, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais on retrouve aussi les sels minéraux dans les eaux minérales, et notamment dans les eaux minérales bien minéralisées. Donc là aussi, c'est très important d'alterner les eaux minérales dans les périodes de fatigue, ou par exemple de constipation, ou autre, dans différentes indications, il va falloir choisir des eaux plus minéralisées, notamment des eaux riches en magnésium. Et chaque eau a son identité minérale. Donc le sel, vous allez le retrouver soit dissous, donc les sels minéraux vont être éparpillés dans un liquide, donc cas de l'eau de mer ou des eaux minérales, soit vous allez retrouver ces sels minéraux agglomérés dans des cristaux de sel.
D'accord.
Et donc, voilà, c'est ce qu'on appelle communément le sel. Donc ce sont ces cristaux, alors, qui ressemblent, parce que ce sont des cristaux aussi au sucre, mais le grand paradoxe, c'est que autant, comme je vous disais, notre corps a appris à se réguler en sel, autant en sucre, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on sait aujourd'hui que le sucre est une substance addictive. Plus on en consomme, plus on a envie d'en consommer, plus on en stocke, alors que le sel, si vous voulez, C'est zéro calorie, ça c'est très important quand même à préciser, parce qu'il y a toujours une idée reçue comme quoi le sel fait grossir, c'est totalement faux. Sauf à imaginer que vous ayez de gros problèmes de santé, de rétention d'eau, et encore, moi je crois qu'une bonne prescription de sel peut lutter contre certaines rétentions d'eau. Donc non, le sel ne fait pas grossir, le sel n'est pas calorique, au contraire, et le sel va réduire votre appétence pour les produits trop sucrés. Et c'est ça qui est très important aussi à comprendre. De manière très schématique, les appétences pour le sel et pour le sucre sont inversées. Moi, c'est vrai que souvent, je termine mes repas, ça peut paraître paradoxal, par du salé.
Calmer la satiété.
Ça peut paraître paradoxal. Bon, ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier.
Pas des chips et du saucisson.
Non, pas forcément. Ça, je le prends au milieu du repas. Mais de plus en plus régulièrement, je commence par le dessert. Parce que je remarque, mais après, ça dépend des métabolismes, mais que finir son repas par du sucré, souvent, ça va vous donner faim quelques heures, parfois quelques minutes après. Alors que quand vous finissez par du salé, souvent, vous êtes calé, hop, c'est bon, on passe à autre chose. Donc tout ça pour dire qu'en fait, le sel est un régulateur d'appétit. Et que voilà, il faut en consommer quotidiennement, régulièrement, de manière équilibrée. Les apports en sel, c'est pas juste le sel, c'est un ensemble d'apports. Donc encore une fois, l'essentiel des sels minéraux sont apportés par votre alimentation, qui doit être la plus variée, la plus équilibrée, la plus saine possible. Mais cette alimentation de nos jours doit être complétée par des eaux minérales varié, équilibré, riche en sels minéraux, et donc la cerise sur le gâteau, c'est le sel qu'il ne faut pas hésiter pour donner du goût à vos aliments.
Et bien choisir. Surtout.
Parce que là aussi, manger sain, souvent, parfois, quand on dit aux gens, faut manger healthy, les gens trouvent que ça manque de goût. Ben, saler son alimentation, en général, ça donne un meilleur goût et ça vous permet parfois de consommer plus facilement certains aliments qu'on peut trouver un peu trop amers.
À condition, en fait, il faut bien choisir son sel.
Choisir son sel. Et après, bon, quand même dire que le sel donc, va avoir un impact sur vos différentes fonctions de l'organisme. Donc, dès que moi, je me retrouve avec un patient en médecine générale qui a un problème de santé, je lui pose deux questions. D'abord, est-ce qu'il s'hydrate correctement? Et ensuite, j'essaie d'évaluer ses apports en sels minéraux. Et il est quand même assez remarquable de noter que la plupart des problèmes de médecine générale, que moi en tout cas je constate, sont liés à des carences en sel. Et ça va de problèmes aussi variés qu'une migraine, une asthénie, une constipation, une hypothyroïdie. Vraiment, c'est parfois même des calculs, rénaux notamment. Si vous voulez, tout ça pour dire que souvent, les personnes qui se restreignent en sel vont faire tout un type de problèmes. Et bien sûr, les problèmes numéro un, ça aussi, il faut en parler, ce sont les problèmes au niveau psychologique. C'est-à-dire que la première cause d'un syndrome anxieux ou dépressif, il faut la rechercher dans son alimentation. Si vous allez voir un médecin qui vous prescrit tout de suite des antidépresseurs sans vous poser de questions, faut pas prendre les antidépresseurs déjà, enfin pas tout de suite en tout cas, et demander un deuxième avis. Parce que la première cause d'un syndrome dépressif léger, elle peut être alimentaire.
D'accord.
Donc ça peut être des carences en sels minéraux, ça peut être des carences en certains nutriments de base, et notamment en certaines graisses. Et là aussi, les gens se restreignent. Et ce que je voudrais faire remarquer, c'est qu'il y a quelque chose d'assez vicieux dans les slogans de prévention. On dit souvent, on entend manger moins salé, moins gras, moins sucré. Sauf que moi, je considère qu'il faudrait surtout dire aux gens, vu les problèmes de santé qu'on constate, et notamment de surpoids et de diabète, il faudrait d'abord dire manger moins sucré. Parce que mettre au même niveau le sel, le gras et le sucre, c'est complètement brouiller les cartes.
Et surtout qu'on dit que manger du bon gras, c'est important pour hydrater les cellules, d'avoir des oléagineux.
Tout à fait. Et c'est là le point commun entre le gras et le sel, c'est qu'il y a du bon gras, il y a du bon sel. Par contre, du sucre, je serais tenté de dire, le sucre, ça reste le sucre. Il n'y a pas vraiment de bon sucre. Le sucre, si vous accumulez du sucre, ça va poser problème de toute manière, quoi. Donc voilà, il faut arriver à retrouver un juste discours. Et souvent, le début d'un amaigrissement, notamment, ça peut commencer par ajuster ses apports en sels minéraux. Et pour ça, déjà, il faut faire un diagnostic. Alors, ça peut se faire avec un médecin, donc soit un généraliste, s'il est ouvert à la question, soit un nutritionniste, soit de plus en plus, moi, c'est vrai que j'en vois des naturopathes qui sont spécialisés, qui savent de quoi elles parlent, hein, bien sûr, et bien sûr, diététiciennes. Voilà, mais en tout cas, des personnes qui sont spécialisées dans l'alimentation, qui n'ont pas de tabou, qui ne sont pas dans ces espèces de schémas, effectivement, qu'on nous enseigne encore à la faculté. Hein. Moi, le premier en médecine, j'ai entendu ces slogans qui, à la lumière des connaissances actuelles, en tout cas, moi, me paraissent inadaptés. Quand j'entends encore des cardiologues dire à des gens qui ont une hypertension débutante de ne pas consommer de sel, pour moi, ce n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté, c'est même contre-productif, parce qu'on va se retrouver dans un cercle vicieux. Les personnes qui font de l'hypertension parce qu'elles manquent de sel vont en consommer encore moins. Les médicaments pour faire baisser la tension souvent font perdre encore plus de sel. Et donc finalement, la personne va se retrouver en hypertension par carence en sel. Et ce qui est intéressant aussi à souligner, c'est qu'il y a différentes circonstances qui nous font perdre des sels. On consomme donc du sel en permanence parce qu'on en a besoin, comme je vous disais, pour toutes nos fonctions. Donc le stress en fait perdre. L'exercice physique et la sudation en font perdre. Mais il faut aussi avoir conscience que certaines boissons que nous consommons, et au premier rang desquelles le café et le thé, sont...
Le thé aussi, d'accord.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas en boire. Hein. Ce sont des boissons qui ont leurs propres bénéfices pour la santé, mais être conscient que ce type de boisson, je ne parle même pas des boissons énergisantes, parce que ces boissons-là vous font perdre des sels. Voilà. Donc vous avez l'impression de vous hydrater, mais en fait, non seulement vous ne vous hydratez pas, ce n'est pas à mettre au crédit de votre hydratation, mais en plus vous perdez des sels minéraux. Donc,
quand tu dis thé, tu parles juste de thé, tu ne parles pas des infusions, c'est vraiment juste le thé et le café qui sont...
Oui. D'accord. Surtout. Mais voilà, donc avoir conscience de ça et avoir conscience que on s'hydrate surtout avec de l'eau. Moi, ça peut paraître incroyable, mais je rencontre encore des patients qui ne boivent pas d'eau, qui vont boire différentes boissons. J'en avais même eu un qui s'hydratait qu'avec une boisson sucrée. Donc ouais, non, il faut boire de l'eau. Alors, je dis pas qu'il faut pas du tout boire d'eau du robinet. Mais il faut s'enquérir de sa qualité. Et ça, vous pouvez vous renseigner auprès de votre mairie sur la qualité de l'eau, sur les dernières analyses. Et des fois, on a des surprises. Pas forcément bonnes, d'ailleurs. Mais bon, pour voir la qualité de cette eau et constater que souvent, l'eau du robinet est très, très peu minéralisée. Donc, vous ne pouvez pas compter juste sur votre eau du robinet pour faire le plein en sels minéraux. Et pourquoi c'est important de faire le plein de sels minéraux par les eaux, c'est que aussi bien dans les eaux minérales que dans l'eau de mer, les sels minéraux sont très biodisponibles. Et là aussi, contrairement à ce qu'on peut lire, c'est une idée reçue, là, totalement fantaisiste, de dire qu'on n'absorbe pas les sels minéraux dans l'eau. C'est totalement faux. Au contraire. Voilà, dans les eaux minérales et dans l'eau de mer, on absorbe les sels encore mieux.
Donc, justement, pour revenir sur le sel, donc c'est vraiment une agglomération de sels minéraux, si je comprends bien pour l'expliquer. Il y a différents sels minéraux qui sont dedans. Parce qu'on parle aussi d'iode, de magnésium. Est-ce que tu peux justement un peu détailler un peu ces sels minéraux qu'on peut retrouver dans le sel marin et nous expliquer, par exemple, si on est en manque. Donc oui, on peut se prendre du sel marin qu'on ajoute à nos repas, mais il y a aussi d'autres moyens. On parle souvent, par exemple, de manger, comme tu disais, des fruits de mer. Tu parlais des algues. Est-ce que ça suffit comme apport ? Ou par exemple des bains dans l'océan, si on a l'occasion de partir en vacances et aller près de la mer.
Alors oui, effectivement. Donc, encore une fois, il faut que tes apports arrivent de différentes sources. Et c'est vrai que moi, l'approche que j'ai eue dans mon dernier livre, Détoxification, c'est de parler de reminéralisation globale en faisant appel à différentes voies. Donc la voie la plus simple, mais à ne pas négliger, c'est la voie respiratoire. C'est-à-dire que respirer un air marin, salé, déjà, ça va nourrir nos bronches de bon sel et ça va permettre d'équilibrer notamment le microbiote pulmonaire. Ça, on n'en parle pas du tout. À une époque où on dit aux gens de se confiner, de porter un masque, bon, c'est pas que je remets en cause, mais je dis en tout cas qu'il ne faut pas oublier de respirer un air pur parce qu'il y a aussi un écosystème dans vos poumons et vous avez besoin de respirer cet air salé qui va avoir un impact sur votre santé globale. Donc déjà, la respiration. Ensuite, l'alimentation. Donc avoir une alimentation avec des produits de la mer, quels qu'ils soient. Alors, le poisson, les fruits de mer, c'est très bien. Si vous êtes végétarien ou végétalien, il reste les algues. Et les algues, c'est pareil, on n'en consomme pas assez, on n'est pas dans cette culture-là. Alors en Bretagne, peut-être un peu plus que dans le sud-ouest, on commence à s'y mettre, mais il faut vraiment se rendre compte que pour de faibles quantités, on va faire le plein en différents minéraux dont on a tendance à manquer. Tu as mentionné l'iode, qui est vraiment très importante, et le magnésium, qui sont vraiment les deux éléments dont les Français sont le plus carencés et pour lesquels il faut impérativement avoir des apports suffisants, sinon c'est sûr qu'on va faire des problèmes de santé, et au premier rang desquels une fatigue chronique. Voilà. Et ensuite, autre voie de passage potentielle, peu étudiée mais intéressant quand même, c'est la voie cutanée et transcutanée. C'est-à-dire se baigner dans une eau riche en sel pour faire en sorte que les sels minéraux nourrissent la peau, parce qu'il faut savoir qu'on peut aussi faire des infections cutanées et qu'avoir une peau suffisamment salée, entre guillemets, hein, je schématise tout ça, si des dermatologues m'entendent, ils vont sauter au plafond, mais non, c'est une réalité. Si vous avez une peau suffisamment salée, vous allez faire moins d'infections cutanées. Voilà. Et c'est valable pour tout votre organisme, c'est-à-dire qu'un organisme insuffisamment salé, là encore une fois, entre guillemets, va faire plus d'infections à des bactéries pathogènes. Donc le bain, pour qu'il soit productif en termes de passage de sels minéraux, il faut qu'il soit suffisamment long. Donc en général, il faut rester au moins une douzaine de minutes dans l'eau pour laisser le temps aux sels minéraux de pénétrer, d'imprégner donc votre épiderme et votre derme.
Et si c'est en hiver, est-ce qu'on peut mettre juste par exemple les pieds et laisser les pieds une dizaine de minutes en marchant?
Bien sûr.
On aura du coup ces sels minéraux dans l'ensemble du corps.
Bien sûr. Alors l'idéal, c'est de s'immerger corps entier, mais si vous n'immergez que les membres inférieurs, alors sans combinaison bien sûr, c'est déjà très bien. Donc il faut y rester suffisamment de temps, et si vous avez fait l'effort de faire ce bain, il ne faut pas passer sous la douche directement après. Pourquoi ? Parce que en sortant de l'eau de mer, les sels minéraux sont encore en surface ou sur les couches superficielles. Si vous allez rincer ça tout de suite avec une eau de la douche, qui est souvent d'ailleurs un peu agressive, vous allez chasser tous ces sels minéraux qui sont en surface et vous n'allez pas laisser le temps à la peau de les absorber. Ça a été prouvé par des études il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, mais ça avait été démontré qu'il faut laisser le temps aux sels minéraux de pénétrer. Et ces sels minéraux vont d'autant mieux pénétrer que l'eau est salée et que l'eau est chaude. Alors c'est vrai qu'en plein hiver, c'est un peu compliqué, donc c'est là que les soins en thalassothérapie revêtent tout leur intérêt, ou en piscine salée et chauffée d'eau de mer, très intéressant. Ou tout simplement, hein, si vous avez la chance d'avoir une baignoire, vous faites des bains salés. C'est-à-dire que vous remplissez votre bain et vous mettez, en fonction du sel, ça peut être des sels d'Epsom, ça peut être des sels marins, il y a différents sels qui peuvent être vendus dans les boutiques bio, et vous faites des bains salés qui vont là aussi vous imprégner. Donc les sels d'Epsom, c'est des sels de magnésium, qui là, oui, ça va constituer un apport non négligeable. Et l'avantage de faire passer par la peau, c'est qu'on ne va pas passer par le tube digestif, qu'on ne va pas passer par le foie, enfin qu'il y aura moins de filtres pour arriver dans la circulation. Donc le passage transcutané, il peut être très intéressant, même si, encore une fois, insuffisamment étudié. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse des études là-dessus, notamment sur l'impact des cures thermales ou des cures de thalasso, pour voir comment ces minéraux pénètrent, parce qu'on sait qu'ils pénètrent, mais la littérature est encore un peu pauvre là-dessus. Donc, en tout état de cause, l'imprégnation doit être globale. Donc si vous pouvez faire un séjour en bord de mer, si vous pouvez faire une océanthérapie au moins une fois par an,
voire deux fois par an.
Je dis pas ça pour faire de la publicité, mais vraiment au niveau sanitaire. Et on le sait là aussi depuis les débuts de la thalassothérapie. On peut difficilement vivre en bonne santé en passant toute sa vie ou toute son année loin de la mer. Et des produits marins. Donc à un moment ou à un autre, il faut s'en rapprocher. Et c'est pour ça que moi je recommande au moins un séjour.
D'ailleurs, c'était connu avant, il y avait les crétins des Alpes, c'est ça qu'ils étaient appelés ? Qui étaient avant, des personnes qui manquaient d'iode.
Tout à fait. Le crétinisme des Alpes, et d'ailleurs pas que dans les Alpes, hein, dans toutes les zones de montagne très éloignées donc, de la mer, de ses produits, de son air, et donc qui se retrouvaient à consommer exclusivement des produits sur des sols totalement dépourvus d'iode, eh bien, se retrouvaient donc à grandir sans iode, et sans iode, la thyroïde ne peut pas bien fonctionner, et de là, c'est tout le développement corporel, intellectuel, qui sont remis en cause. Voilà, et c'est pour ça qu'à l'époque, on récupérait des personnes qui étaient vraiment en très mauvaise santé, voire qui avaient des malformations liées à ces carences. Et on les reminéralisait. Biarritz, d'ailleurs, était une ville très connue pour ça. Parce que non seulement il y avait les thalassothérapies, mais on avait à l'époque aussi des termes salins. Mon grand-père, qui était aussi médecin généraliste, il prescrivait des bains justement à ces thermes, qui étaient dans des eaux, dans une eau très salée, encore plus salée que l'eau de mer. Et d'ailleurs, j'ai récupéré des revues médicales des années 1900, du début des années 1900, et les médecins à l'époque ne prescrivaient que ça, dans différentes indications.
Il n'y en a plus du tout de termes ici.
Et à l'époque, malheureusement, ces termes-là ont été détruits pour faire de l'immobilier, ce qui est pour moi un des plus grands drames architecturaux de Biarritz, mais bon, bref, et sanitaire. Parce qu'aujourd'hui, on a oublié tout ça. On a oublié qu'à une époque, les médecins prescrivaient des bains salés, prescrivaient de l'eau de mer pharmaceutique, médicale. Mais jusque dans les années 80, c'était dans le Vidal. Et d'ailleurs, c'est en train de revenir, parce que Quinton est en train de ressortir son Duplaz de Quinton, donc la formule originale qui était prescrite par les médecins. Donc voilà, moi je crois que c'est le moment de remettre ça au goût du jour et de se rendre compte que la base de la santé et d'une prise en charge médicale, c'est de veiller à des bons apports en sels minéraux. Et pour ça, on ne peut pas se fâcher avec le sel. Et voilà, et donc on a tout intérêt à se réconcilier, à réapprivoiser le sel, sans excès, mais encore une fois, les excès vont être évités par le fait que notre organisme sait se réguler, il faut lui faire confiance. On va savoir réguler.
En choisissant des produits naturels, je pense que c'est aussi ça le point qui est important.
Tout à fait.
Que tu évoquais, c'est le sel. Il faut choisir du sel qui vient de la nature, pas du sel raffiné, le sel qu'on retrouve dans les produits industrialisés, où là le corps ne sait pas le gérer.
Tout à fait.
Le vrai sel marin dont on a besoin.
Et tu vois, un bon exemple, le paquet de chips dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil. Pour moi, il y a des bonnes et des mauvaises chips. Il y a des chips ultra transformés avec du sel raffiné que je déconseille fortement de consommer. Par contre, des bonnes chips à base de bonnes pommes de terre, de bonne huile et de sel marin, c'est marqué ça en général, moi je considère que c'est un produit. Alors déjà qu'il n'y a pas à vous faire grossir parce que voilà, finalement c'est pas avec ça qu'on va grossir. Voilà, mais toujours est-il que voilà, le même produit en fonction de la qualité de ces produits et de la nature du sel va avoir un impact nutritionnel totalement différent.
D'accord.
Donc c'est important. Regardez vos étiquettes et regardez si c'est pas précisé. S'il y a écrit juste sel, demandez quel sel. Voilà.
Merci.
Parce que sel en soi, ça veut rien dire.
Alors pour conclure, ce qui est important, c'est vraiment pour éviter toute carence, si je résume un peu, dès qu'on peut et qu'on a l'occasion de partir près de l'océan pour justement respirer cet air marin et faire le plein de sels minéraux à travers les embruns, de ne pas hésiter à manger justement, à faire le plein de sels minéraux à travers notre alimentation, alors à travers du vrai bon sel marin, à travers des produits de la mer, comme dont on a parlé, mais aussi pour les végétariens et même les non-végétariens, les algues, qui sont une superbe source de sels minéraux. Il y a de plus en plus de choses qui sont développées. Je vous conseille d'ailleurs le tartare d'algues, qui est excellent, qui est très bon. Et la troisième chose, c'est justement à travers la peau, où là, dès qu'on peut, de faire des bains dans la mer, même l'hiver, d'aller marcher, de mettre les pieds dans l'eau. Et si vous êtes loin de la mer, de ne pas hésiter à faire un bain chez vous en mettant du gros sel dans votre bain. Et aussi, ce qu'il y a, si vous êtes loin de la mer, vous pouvez également faire des cures, du coup, de quinton d'eau de mer pour faire le plein de sels minéraux. Est-ce que j'ai bien résumé
Je n'aurais pas mieux dit. Donc effectivement, tu as bien intégré tout ça et il me tarde de goûter ton tartare d'algues.
Là, c'est délicieux, je le conseille, avec sur une bonne tranche de pain avec justement un peu de sel marin et un peu d'huile d'olive, c'est très très bon. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces informations et sûrement à très bientôt pour un prochain podcast avec toi, j'espère, sur l'océan,
un
nouveau sujet. À bientôt. Merci, c'était super intéressant.